10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré,
Johan Usaï, Aurélie Herbemont.
Bonjour à tous, notre invité ce matin, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Aurélie Herbemont.
Économie, finances et relance, c'est le Covid qui a rajouté ce titre à votre portefeuille. La relance pour faire face à la pire crise économique depuis 1929, c'est ce que vous disiez. On est passé de la panique de voir l'économie s'effondrer à une certaine euphorie en l'espace de quelques mois. L'économie repart et elle repart fort, dites-vous désormais. Alors est-on vraiment sorti d'affaire ? En admettant que la crise sanitaire soit cette fois en passe de résolution, la fin du quoi qu'il en coûte sera-t-elle indolore ? Faudra-t-il travailler plus longtemps pour que la machine se remette vraiment en marche, en passant par une réforme des retraites qui renflouerait les caisses, par exemple? On va discuter de tout ça avec vous, et puis on parlera des régionales, où la Macronie est accusée de jouer les apprentis sorciers. À mes côtés ce matin pour vous interroger, Nicolas Barré des Échos et Johan Usaï de CNews. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
D'abord, on va se pencher, Bruno Le Maire, sur le G7 Finance qui s'est tenu hier et avant-hier à Londres et dont vous revenez. C'est Johan Usaï qui vous pose la première question.
Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour.
Les ministres des Finances du G7 se sont donc mis d'accord sur un impôt mondial, une taxe minimum de 15% sur les bénéfices des entreprises. En quoi est-ce historique, pour reprendre le terme que vous avez utilisé hier ?
Alors c'est historique et le terme a été employé, je crois, par tous les participants du G7 pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un avant et un après. Et c'est ça qui qualifie un événement historique, c'est qu'il change la donne. Avant cet accord au G7, nous n'avions aucune perspective de taxer les géants du numérique, qui sont pourtant les grands gagnants de cette crise économique. Avant cet accord, il y avait des possibilités d'optimisation fiscale pour toutes les grandes multinationales. Vous faisiez des profits en France ou ailleurs, et puis vous pouviez délocaliser ces profits pour payer moins d'impôts en France. Après cet accord, ça ne sera plus possible. La deuxième raison pour laquelle c'est un accord, à mes yeux, historique, c'est que les grandes nations occidentales vont définir les règles pour le XXIe siècle en matière de fiscalité. On n'arrête pas de nous rabattre les oreilles depuis des années en nous disant que le XXIe siècle sera chinois ou il sera asiatique. Moi, je pense profondément que les grandes nations occidentales, et en particulier les grandes nations européennes qui ont joué un rôle majeur dans cet accord, en particulier la France, ont encore quelque chose à dire au XXIe siècle, ont des valeurs à défendre, ont des intérêts à défendre. Avec ce G7 de Londres, et je rends hommage à son organisateur, le chancelier de l'échiquier, Rishi Sunak, nous disons haut et fort, les grandes nations occidentales peuvent encore définir les règles au XXIe siècle. Nous avons encore des valeurs à défendre, nous avons encore des intérêts à défendre, et nous sommes déterminés à le faire.
Alors cet accord fixe donc un taux d'imposition sur les sociétés de 15% au niveau mondial. Le président américain Joe Biden avait parlé de 21%. Vous-même, vous dites qu'il faut aller au-delà de, effectivement, des 15%. Ça signifie que si on s'en tenait là, ça n'aurait pas vraiment d'impact pour lutter contre l'optimisation fiscale ?
C'est déjà un bel exploit d'être parvenu à se mettre d'accord sur un impôt minimum. Et qu'est-ce que ça veut dire pour que chacun comprenne bien ? Ça veut dire qu'une grande multinationale qui a son siège en France et qui fait des bénéfices, qui aujourd'hui les délocalise dans un pays où le taux d'imposition réel est, mettons, de 5%. Eh bien, désormais, s'il y a un taux minimal à 15%, les 10 points d'écart, la France va les récupérer. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus grand intérêt pour ces multinationales à délocaliser leurs profits et leurs bénéfices. Et ça veut dire pour toutes les nations de la planète qu'elles vont récupérer tout simplement ce qui leur est dû. Et c'est une question de justice fondamentale. Ce qui nous est dû va revenir à la France et va revenir à l'ensemble des nations de la planète. Alors 15%, c'est un compromis. Si nous avons négocié au CITAR, c'est que je me suis battu, la France s'est battue, pour qu'on rajoute deux petits mots très importants dans le communiqué final, at least, au moins 15%. Ça veut dire que dans les semaines qui viennent, nous allons continuer à nous battre avec les autres pays européens, en particulier l'Allemagne, avec qui nous avons travaillé main dans la main, pour que ce soit un taux le plus élevé possible.
Quel est le taux que vous visez, Bruno Le Maire ?
Ce sera honnêtement très difficile, parce que déjà l'accord a été très difficile à trouver, mais nous ne ménagerons pas nos efforts pour que le taux soit le plus élevé possible. Quand les États-Unis avaient proposé 21%, nous avions dit « top là, 21%, ça nous va très bien ». Et on est prêt à avoir 21%. Alors ne cachons pas que déjà avoir le au moins 15% nous a demandé des jours et des nuits de négociation. Mmh. Donc il ne faut pas cacher que ce sera difficile d'avoir plus de 15%. Mais la France, comme elle l'a fait depuis 4 ans, ne ménagera pas ses efforts. Vous savez, quand j'ai commencé à me battre avec le président de la République sur ce sujet de la taxation minimale, c'était en 2017. Tout le monde nous disait, mais vous n'y arriverez jamais. C'est même pas la peine d'y penser. Taxer les gens du numérique, vous n'y arriverez jamais. Avoir une taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, vous n'y arriverez jamais. Impossible n'est pas français.
Impossible n'est pas français, mais merci Joe Biden.
Pour une fois, nous avons montré que ce dicton avait de la valeur et qu'effectivement, quand on se bat, quand on est déterminé, quand on y met beaucoup de cœur, on peut obtenir le résultat que nous avons obtenu hier.
Avec un changement de président aux États-Unis, c'était plus facile avec l'administration Biden qu'avec l'administration
Trump.
Qu'est-ce
qui a fait que nous avons réussi à trouver cet accord? Une détermination de long terme de la France. Et je pense que tous les Français peuvent être fiers de ce résultat. C'est leur résultat. C'est le résultat des Français. La France pèse encore sur la scène internationale et ce que dit la France est écouté et respecté. Après, il y a deux choses qui ont changé la donne. L'administration Biden, c'est un changement radical, reconnaissons-le. Et la ministre des Finances américaine, Janet Yellen, a été particulièrement constructive tout au long de ses 48 heures à Londres. Elle a trouvé des solutions, elle a aidé à forger ce consensus. Puis la deuxième raison, elle est un peu triviale, mais c'est que nous avons tous besoin d'argent. C'est que nous avons tous beaucoup dépensé d'argent au cours de cette crise sanitaire, de cette crise économique, et qu'il nous faut des recettes.
Et ça va rapporter
Bruno Le Maire.
Ça va rapporter sur la taxation des géants du numérique de l'ordre pour la France, quelque chose de plus important que les 400 millions d'euros que nous touchons avec la taxe nationale. Ça peut être entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Et pour la taxation minimale, là, la base est beaucoup plus large parce que ça touche un très grand nombre d'entreprises et on est sur plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'échelle européenne et plusieurs milliards d'euros à l'échelle de la France. Donc vous voyez que c'est des recettes fiscales qui peuvent être considérables et elles sont justes. Elles ne vont pas pénaliser un pays ou un autre. Elles seront universelles. Et c'est ce qui fera leur efficacité.
Mais Bruno Le Maire, quand est-ce que ça pourra vraiment voir le jour? Parce qu'il y a eu cet accord au G7, maintenant il faut convaincre le G20, puis les 140 pays de l'OCDE. Avec la Chine, ça ne sera pas forcément facile. On pense aussi à nos voisins européens irlandais qui, eux, ont bâti toute leur économie sur un système d'impôt sur les sociétés très bas. Comment est-ce que ça peut voir le jour pour de vrai? Et quand, à votre avis?
Alors la prochaine étape, pour qu'on ait bien tous le calendrier en tête, c'est le G20. Qui aura lieu à Venise, en Italie, début juillet. Là, il va falloir convaincre les autres grandes puissances, notamment asiatiques, je pense en particulier à la Chine. Reconnaissons-le, ça va être un combat difficile.
Et gagnable
ensuite, oui, gagnable, et j'ai bon espoir que nous le gagnerons, parce que le G7, justement, donne cette impulsion politique extrêmement puissante. Et puis, après, il y aura un accord multilatéral à l'OCDE. Il faut compter 2 à 3 ans, à mon sens, pour que cet accord multilatéral puisse être mis en œuvre. Là, je parle de la taxation des géants du numérique. Pour la taxation minimale, là, les choses sont un peu plus simples. Il suffit, dans le fond, qu'il y ait un certain nombre d'États qui se mettent d'accord pour que cette taxation minimale puisse se mettre en place. Une directive européenne est en préparation d'ici la fin de l'année. Et ce que je souhaite, c'est que les États européens se battent pour qu'ils soient les premiers, les 27, à mettre en œuvre cette taxation minimale. Parce que dans le fond, ce qu'il y a derrière, ce n'est pas simplement un sujet fiscal, c'est un modèle de société. C'est la fin de 20 ou 30 ans de dumping fiscal. Qu'est-ce que nous montrons avec cet accord? Qu'est-ce que les États européens montrent? C'est que le dumping fiscal est une impasse. C'est que nos services publics, nos hôpitaux, nos crèches, nos collèges, nos lycées, nos universités ont besoin de financement. Et que baisser sans cesse le niveau d'imposition, entrer dans une compétition fiscale entre États européens, c'est une impasse, ça ne mène nulle part.
Vous l'avez
nous avons besoin de financer nos services publics, nous avons donc besoin d'un impôt minimal, nous refusons la course vers le bas en matière fiscale et je souhaite que tous les États européens soient les premiers à mettre en œuvre cette imposition minimale.
Mais Bruno Le Maire, il y aura toujours une partie de dumping fiscal puisque là c'est une taxe minimum de 15% et en France par exemple les sociétés sont taxées à 28%.
Elles sont à 28%. J'ai bon espoir, et c'est plus que de l'espoir, c'est de la volonté, puisque ça fait partie de notre projet qu'elles soient à 25% d'ici 2022. Mais du coup, on a une moyenne européenne. Que certains soient à 26-27, d'autres à 22-23, ça n'est pas un problème. Mais que vous ayez des États qui sont en moyenne à 25-26 et que dans d'autres États, si vous prenez par exemple l'Irlande, on est à 12,5, la Hongrie à 9, Chypre à 10. Là, on rentre dans le dumping fiscal. Et du coup, on rentre dans une course qui est une course sans fin, où chacun essaye d'être plus attractif que l'autre en baissant son niveau d'imposition. Et après, on ne sait plus comment financer nos services publics et notre modèle social. La crise a montré que le modèle social européen avait une valeur infinie, qu'il protégeait les salariés, qu'il protégeait les compétences, qu'il évitait la crise politique qu'on avait connue au XXe siècle. Mais pour le financer, il faut une imposition minimale. Nous y sommes.
Pour que nos auditeurs comprennent bien concrètement, Bruno Le Maire, qu'est-ce que ça va changer pour les très grandes entreprises françaises qui sont mondialisées ? Puisque l'idée, c'est bien qu'on paye ses impôts là où on fait du business. Alors, Total, par exemple, fait 90% de son activité à l'étranger. Sanofi ne doit pas être très loin. Qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça veut dire que ces grandes entreprises paieront moins d'impôts en France et plus à d'autres pays, par exemple ?
Alors, je vais essayer d'expliquer, parce qu'effectivement, qu'on comprenne bien ce qu'il y a concrètement dans cet accord conclu hier au G7. Il y a ce qu'on appelle deux piliers. Il y a d'abord la taxation des géants du digital, ceux qui ont fait le plus de profits. Là, le champ de cette taxe, c'est les entreprises les plus importantes de la planète. On pourrait, par exemple, prendre le seuil de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça pourrait être un point de référence. Ça n'est pas encore, ça ne fait pas encore l'objet d'un accord, mais ça pourrait être 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment les plus grandes entreprises de la planète, c'est quelques centaines d'entreprises, pas plus. Sur ces entreprises-là, elles font du surprofit, c'est le deuxième critère. Donc dès lors qu'elles font plus que 10% de profit, qu'il y a ce surprofit, on va redistribuer ce surprofit dans les États où elles font ce surprofit, pour que les États puissent bénéficier de ces recettes fiscales. C'est ce que j'appelle le pilier 1. C'est sur un champ qui est étroit, mais qui va permettre enfin de taxer tous les géants du digital, sans exception, et nous faire revenir des recettes qui sont liées aux profits qu'ils font en France. Il y a le deuxième pilier ensuite, celui dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, c'est la taxation minimum. Là, c'est un champ beaucoup plus large, c'est des milliers d'entreprises, et le seuil pourrait être de l'ordre de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça va changer ? Une grande multinationale qui est implantée en France, qui a des filiales un peu partout et qui, pour optimiser son impôt, répartit son bénéfice un peu partout à travers la planète, un peu ici, un peu là, là où le taux d'imposition est le plus faible. C'est parfaitement légal. Mais nous, désormais, la différence entre ce qu'ils payent dans ces pays où ils ont délocalisé le profit, 2%, 5%, 10%, et le nouveau référentiel, 15% au minimum, ce sera pour nous. Ça nous reviendra. Les 10, 12, 14 points d'écart d'impôt que nous perdons chaque année sur ces profits qui sont délocalisés, la France va les récupérer.
Eh bien, on va marquer une pause et on se retrouve tout de suite avec Bruno Le Maire.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré,
Johan Usaï, Aurélie Herbemont.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est avec nous ce matin. Alors, nouvelle étape du déconfinement mercredi. Le couvre-feu passe à 23h. Les salles des cafés et restaurants pourront rouvrir. Ça marquera le top départ de la vraie reprise, Bruno Le Maire ?
Moi, je pense que le top départ, il a déjà été donné. On le voit dans les chiffres de consommation qui sont très bons. Ils étaient, dans la première semaine, 20% supérieurs à la même période de 2019. Il y a eu un effet boost du redémarrage. Aujourd'hui, dans la semaine du 24 au 30 mai, les dépenses par carte bleue sont supérieures de 15% à ce qu'elles étaient dans la période 2019. Donc l'économie française redémarre déjà. On le fait progressivement. Le 9 juin, c'est une étape importante pour tous nos amis restaurateurs qui vont pouvoir ouvrir plus largement. Mais le redémarrage, il est déjà là. Il se lit dans les chiffres de consommation et dans les chiffres d'investissement.
Vous dites que les Français consomment, mais est-ce que vous pensez que c'est durable ou il y a juste un effet rattrapage ? Tout le monde ne va pas forcément passer son temps au restaurant pendant les mois qui viennent ou aller acheter des vêtements tous les jours. Vous pensez que ça peut être durable ?
Je pense qu'on a beaucoup de choses à rattraper, tous, collectivement. Je crois qu'on a une envie, une soif de nous retrouver, de sortir, de nous voir, de discuter, d'échanger. Donc moi, j'ai vraiment confiance sur ce qu'on va être les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense tout simplement que la France va se retrouver, que nous allons nous retrouver. Et que c'est un moment très important après des mois de confinement, des mois de difficultés sanitaires. J'appelle simplement chacun à faire preuve de sens des responsabilités, à garder les gestes barrières, à se faire vacciner. Parce que la vaccination collective est la meilleure garantie que ce redémarrage se fait dans des conditions solides.
Alors justement, je ne veux pas être rabat-joie, mais au Royaume-Uni, le gouvernement de Boris Johnson envisage de reporter la levée de toutes les restrictions à cause du variant indien. En France, on a vu que dans certaines régions, il y avait des taux d'incidence qui redémarraient. Est-ce qu'on peut craindre comme ça une nouvelle vague ?
Je pense que c'est le seul obstacle réel sur le chemin du retour à la normale et d'un redémarrage puissant de l'économie française. Ce qui veut dire derrière des emplois, de l'activité, de la place pour les jeunes qui ont été particulièrement touchés pendant cette crise. Donc je le redis, j'appelle chacun au sens des responsabilités et surtout à la vaccination. Plus nous, nombreux nous serons à être vaccinés, plus le redémarrage sera solide.
La vaccination au Royaume-Uni cartonne, on peut le dire, et ça n'empêche pas effectivement que là, il se pose des questions sur est-ce qu'on peut lever toutes les restrictions donc.
Alors, nous ne sommes pas au Royaume-Uni, je ne suis pas non plus ministre de la Santé, je dis simplement que ce n'est pas les fondamentaux de l'économie qui sont en jeu, ils sont sains. Ce n'est pas la volonté de consommation des Français qui est en jeu, elle est là. Ce n'est pas l'investissement des entreprises qui est en jeu parce qu'elles se sont remises à investir et que nous avons mis en place tous les dispositifs pour les soutenir, pour les aider à investir et pour protéger celles qui sont les plus fragiles. La seule incertitude pèse sur la question de la sécurité sanitaire et elle est notre affaire à tous.
Alors précisément, vous êtes ministre de l'économie et on entend certains commerçants, notamment quelques restaurateurs, dire que parfois ils ont gagné davantage d'argent en étant fermés avec les aides de l'État que sans, qu'en travaillant. Est-ce que l'État a parfois, et je dis bien parfois, été trop généreux ?
Il y a pu avoir des surcompensations. Et ça fait partie du choix collectif que nous avons fait. Vous savez, quand vous prenez ce genre de décision, vous avez le choix et vous les prenez au moment où la crise frappe très dur, où il y a des règles de confinement, où les restaurants, tout simplement, sont fermés, totalement fermés, ils n'ont plus d'activité. Soit vous essayez de compenser à l'euro près, de manière très précise, très détaillée, avec le risque que les aides arrivent des mois et des mois après, ou n'arrivent pas du tout. Et que ça fasse des pertes parmi les restaurateurs, les hôtels, les bars, les activités de touristes, de divertissement. Soit vous vous dites, on protège massivement, il pourra y avoir ici ou là une surcompensation. Oui, c'est vrai. Mais l'immense majorité des cas,
mais
il y aura
assumé,
eu une juste
assumé.
Compensation. Oui, c'est assumé. Je pense que ce que nous avons voulu avec le président de la République et le Premier ministre, c'est la simplicité et l'efficacité. Et tous les arbitrages qui ont été rendus sur les questions financières, je les assume. Nous les avons pris pour protéger massivement. Il peut y avoir ici ou là, je le reconnais, de la surcompensation. Mais massivement, nous avons voulu protéger de manière juste et de manière efficace. Et si le redémarrage aujourd'hui se passe dans de si bonnes conditions, c'est pour une seule raison. C'est que vous n'avez pas eu de perte de salariés, pas eu de perte de compétences, qu'une entreprise aéronautique qui veut retrouver ses salariés, ses ouvriers, qu'il faut parfois former pendant des années, ils sont là, les compétences ne sont pas perdues. L'entreprise du bâtiment qui a besoin de couvreurs, les couvreurs sont là. La compétence, elle n'est pas perdue. Parfois même, d'ailleurs, elle manque. Même chose pour les restaurateurs, même chose pour les hôtels. Il n'y a pas eu de casse sociale, pour faire simple.
Est-ce que vous
pensez... Et ça, je pense que c'est plus précieux que tout.
Est-ce que vous pensez, Bruno Le Maire, qu'il n'y en aura pas ? Parce que là, les aides vont progressivement être débranchées. Vous disiez il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de mur des faillites. Qu'est-ce qui vous permet d'être si optimiste face à cette, crise très très grave ?
Je suis plus volontariste que optimiste. L'optimisme est dans ma nature, mais je suis surtout volontariste. D'abord, nous débranchons les aides progressivement parce que nous voulons éviter justement que certains se disent, dans le fond, il vaut mieux continuer à vivre des aides plutôt que se remettre à travailler.
L'important, c'est de se remettre à travailler.
Oui, l'important, c'est de se remettre à travailler. Une nation qui ne travaille pas, c'est une nation qui coule. Donc nous voulons que la nation française travaille. Et d'ailleurs, les Français en ont envie. Les restaurateurs en ont envie. Les hôteliers en ont envie. Ils veulent retrouver le travail. Moi, je ne connais pas de restaurateur ou d'hôtelier qui aime vivre des aides. Ils aiment vivre de leur travail. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai suffisamment entendu mes amis agriculteurs m'expliquer, nous, monsieur le maire, ce qu'on veut, c'est vivre de notre travail, c'est de vendre nos produits, c'est pas vivre des aides. Donc nous allons retirer progressivement les aides pour inciter au retour à l'activité. Et pourquoi je suis confiant sur le fait qu'il y aura peu de faillites ou que nous arriverons à les maîtriser. Il y en aura, bien entendu, mais je ne crois pas à une vague de faillites parce que nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement des secteurs les plus fragilisés qui doivent nous permettre d'éviter cette vague de faillite.
On est pourtant à un niveau très 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 bas de faillite, hein. On a un record. Du coup, ça laisse supposer que beaucoup d'entreprises, effectivement, sont très fragilisées, vont être très fragilisées après cette année de crise. Et ça peut laisser penser qu'il risque d'y avoir, malgré tout, une augmentation forte des faillites.
C'est... Le maître mot, Nicolas Barré, de notre gestion de crise, ça a été de l'anticipation. Nous avons anticipé sans cesse les étapes à venir. Là, nous avons anticipé qu'effectivement, en sortie de crise, il y a eu 35 000 faillites en 2020, alors qu'il y en a d'ordinaire 50 000, il y a un risque d'effet rattrapage. Oui. Donc nous avons mis en place des dispositifs pour les plus petites entreprises, moins de 20 salariés, 3 millions d'euros de passifs. On va les accompagner, leur apporter les financements nécessaires. Pour les plus grandes entreprises, les grandes entreprises dans les secteurs qui sont en difficulté, je pense à l'aéronautique, 3 milliards d'euros qui sont mis à la disposition de ces entreprises, au cas par cas bien entendu, pour leur apporter des quasi-fonds propres et les aider à redémarrer. Tous les dispositifs sont sur la table, ils doivent nous permettre d'éviter une vague de faillite.
Bruno Le Maire, vous nous dites que vous êtes plus volontariste qu'optimiste. Est-ce que ça signifie quand même que vous avez un doute sur l'état de santé précis de l'économie française dans les prochaines années ?
J'ai regardé avec attention... les doutes que les Français expriment ce matin dans un sondage qui est publié par
le JDD. Ils sont importants.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point, en économie, comme sur le reste, les Français sont confiants sur leur situation personnelle et inquiets sur notre situation
nationale. Et vous avez des doutes ? Est-ce que vous avez des doutes ?
Moi, je voudrais que les Français soient confiants aussi sur leur situation nationale. Nous avons des fondamentaux qui sont solides. Nous restons une des grandes économies de la planète. Il faut juste que nous regardions les défis qui sont devant nous. Et les défis qui sont devant nous, dans le fond, on les connaît. Et nous sommes, avec le président de la République, déterminés à les relever. Le premier, la formation. Former, qualifier les salariés pour les accompagner d'un secteur en difficulté vers un secteur qui redémarre. Deuxième défi, l'innovation. Si nous voulons rester une grande puissance économique, nous devons investir toujours plus dans la recherche, dans les universités, dans les nouvelles technologies. Troisième défi essentiel, le volume global de travail des Français.
Et on va en parler justement dans un instant, juste après la pause, Bruno Le Maire.
C'est un point essentiel.
On y vient.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré,
Yoann Uzaï, Aurélie Herbemont.
Bruno Le Maire est toujours avec nous. Alors, une des solutions pour renflouer les caisses de l'État, c'est peut-être de travailler plus longtemps via une réforme des retraites, pourquoi pas. Emmanuel Macron a remis le sujet sur la table cette semaine, jeudi, lors d'un déplacement dans le Lot.
Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'état. Je vais être franc avec vous. Parce que je pense qu'elle était très ambitieuse, extrêmement complexe. Et du coup, elle était porteuse aussi d'inquiétude, il faut bien le reconnaître, être lucide sur la manière dont le pays l'a vécu.
Nicolas Barré.
Alors Bruno Le Maire, c'est le bon moment à 10 mois de la présidentielle de remettre le sujet des retraites sur la table ?
Je pense que c'est le bon moment pour remettre sur la table la question de la société que nous voulons dans les 10, 20, 30 années à venir. De la nation que nous voulons. C'est ça l'enjeu des élections présidentielles, c'est savoir quelle société nous voulons et quelle nation nous voulons construire ensemble. Et dans ces questions sur la société, sur la nation française des 10, 20, 30 années à venir... La question du travail est fondamentale, parce que ce qui structure une société, une nation, c'est la qualité de son travail, c'est son volume de travail. Et de ce point de vue-là, les faits sont têtus. Nous sommes une nation qui, depuis 20 ou 30 ans, traîne un taux de chômage très élevé. On est arrivé à le faire baisser depuis 2017, avant la crise, mais nous gardons un taux de chômage structurellement plus élevé que d'autres grandes nations développées. Est-ce que nous nous y résignons ou pas ? Moi, je ne m'y résignerai jamais. Il y a un deuxième fait qui est très fort, c'est que nous avons un taux d'activité des 55-65 ans qui est un des plus bas en Europe. 20 points en dessous de ce que c'est en Allemagne. Je trouve ça révoltant. Je pense que c'est un gâchis d'expérience, de talent, de savoir-faire, de transmission considérable. Et moi, je vous le dis sincèrement, cela me révolte qu'on considère qu'une personne de plus de 55 ans, dans le fond, plus tôt on s'en débarrasse, mieux on se porte. Moi, je considère que plus longtemps on la garde, et plus elle peut transmettre, mieux la nation se porte. Et il y a une troisième réalité, c'est que rentrer sur le marché du travail pour un jeune de 18, 20, 22 ans, ça reste très difficile en France, même si un des grands succès de ce quinquennat aura été d'avoir enfin réussi à mettre en place un apprentissage puissant et à augmenter le nombre d'apprentis. La conclusion de tout cela, c'est que la France a un volume global de travail plus faible que les autres grandes nations développées et que ça nous appauvrit tous et que ça appauvrit nos enfants et nos petits-enfants.
Est-ce que ce sont les Français qui ne travaillent pas suffisamment?
Absolument pas. Les Français sont travailleurs, les Français sont compétents, les Français sont productifs. Chaque Français travaille fort, travaille bien, a le goût du travail bien fait. Mais c'est le choix d'une société collective que nous avons fait, nous tous, vous, moi, nos auditeurs. Nous avons accepté que la France ait un volume global de travail moins important que celui d'autres grandes nations développées. Ben, la conclusion de tout ça, c'est quand vous regardez la situation, le niveau de vie des Français par rapport à deux autres grandes nations que sont les États-Unis et l'Allemagne, ben, depuis 10 ans, nous perdons du terrain. Il y a un appauvrissement relatif des Français par rapport à l'Allemagne et par rapport aux États-Unis. Vous résignez à ça? Moi, je crois une nation française puissante. Je crois un niveau de vie élevé pour mes enfants, pour mes petits-enfants, en termes de santé, de qualité de vie, d'habitation, de déplacement. Je crois à une France qui travaille collectivement davantage.
Et alors, Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il faudrait comme réforme des retraites? Il faut allonger la durée de cotisation, repousser l'âge?
Ne comptez pas sur moi pour vous remettre ma copie sur ce que doit être une bonne réforme des retraites.
D'abord, oui, un volet financier, c'est sûr.
Je ne suis pas responsable du sujet. En deuxième lieu, c'est au président de la République et à lui seul de définir ce que pourrait prendre comme chemin cette réforme des retraites. En revanche, quand le président de la République dit que c'est une priorité absolue, je partage chaque mot du président de la République. Oui, c'est une priorité. Et c'est une priorité parce qu'il en va de l'avenir de la nation, et c'est une priorité parce qu'effectivement, les retraites pèsent aussi 14% de la dépense sociale dans notre pays, donc ça a un poids financier qui est très important. Sous quelle forme faut-il le faire? Dans quel calendrier?
Quel calendrier? C'est la vraie question.
C'est au président de la République et à lui seul de le définir. Moi, je considère, et ça a toujours été ma position constante sur ce sujet, que c'est une priorité.
À l'ancien, avant la fin du quinquennat?
Priorité, ça veut dire priorité, c'est-à-dire que comme il en va de l'avenir de la nation, il est bon que cette réforme ne tarde pas trop.
Ça fait partie des décisions difficiles dont parle Emmanuel Macron, qui pourrait l'empêcher de se représenter l'année prochaine?
Mais les décisions difficiles qui engage l'ensemble des Français et qui engage ce que nous voulons devenir comme nation, elle ne relève que de la seule personnalité de la majorité élue au suffrage universel, seule, en tête-à-tête avec les Français, c'est-à-dire le président de la République. Moi, je suis ministre de l'Économie et des Finances. J'ai été élu, j'ai la légitimité d'un député qui a été élu au suffrage universel, mais je sais que certaines décisions n'appartiennent et ne relèvent que du président de la République. Celle-là en fait partie.
Bruno Le Maire, quand le président de la République dit que la réforme ne pourra pas revenir en l'état, celle qui a été présentée avant la crise sanitaire, qu'est-ce qui était trop dur dans cette réforme et qu'il faudrait enlever aujourd'hui pour qu'elle soit plus acceptée par les Français? D'abord, de quel point précis parlons-nous là?
Il y a une grande honnêteté, je trouve, de la part du président de la République à tenir ses propos. Je veux le signaler parce que ce n'est pas usuel d'avoir un président de la République qui dit voilà, il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Et c'est important que Emmanuel Macron ait eu cette démarche dans son déplacement de dire voilà, il y a des choses qui n'ont pas été comprises, qui ont suscité de l'inquiétude. Et je partage totalement son diagnostic. Je crois que la présentation d'un système universel très ambitieux, très juste, mais qui avait beaucoup de vertus sur le papier, dans la tête de chacun de nos compatriotes, ça a suscité des inquiétudes.
C'était pourtant le cœur de la réforme.
Ils se sont dit, la promesse présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017.
Ils se sont dit légitimement, mais qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Qu'est-ce que je vais avoir comme retraite? Ça vaut quoi le point? Il va être indexé sur quoi? Il y a eu beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas su apporter des réponses suffisamment convaincantes pour les Français. Et c'est ce qu'a reconnu le président de la République. Et je pense que cet exercice d'honnêteté, il est salutaire pour nous tous.
Mais donc, ça veut dire qu'il faut juste faire une réforme financière sur des mesures d'âge, comme les gouvernements, les uns après les autres, ont fait ces dernières années?
Le gouvernement pourrait abandonner le système universel, c'est ça?
Il n'y a pas simplement de mesures financières ou autres quand on engage une réforme des retraites. Il ne faut le faire, à mon sens, que dans le cadre d'une réflexion plus globale sur ce que nous voulons être comme nation et sur la place que nous voulons accorder au travail. Nous, dans la majorité et avec le président de la République, nous avons toujours considéré que le travail était un des piliers fondamentaux de la société française.
Ça...
Donc nous considérons qu'il faut un volume global de travail plus important,
ouais.
Et nous avons considéré, et nous avons fait aussi en sorte, que le travail soit mieux rémunéré. Je veux simplement rappeler que depuis des années, nous avons augmenté la prime d'activité, mis en place des primes défiscalisées, fait en sorte qu'une personne au niveau du SMIC touche 170 euros de plus par mois. Ça valide une chose, le travail est essentiel dans notre société.
Mais Bruno Le Maire, on ne va pas tourner autour du pot. Vous nous avez fait la démonstration que vous vouliez plus de quantité de travail globalement dans l'économie française. Clairement, ça signifie qu'il faut augmenter l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à davantage.
63, 64, comme propose la droite.
Il y a plusieurs modalités. Ce n'est pas à moi de définir ces modalités. Mais l'objectif doit être effectivement qu'au bout du compte, nous ayons un volume global de travail plus important pour garantir le niveau de vie de nos enfants. Que tout cela repose sur un principe de justice. C'est-à-dire qu'on tienne compte du fait que voilà, vous avez des Français, ils rentrent sur le marché du travail à 18 ans, et puis ils vont travailler sur des chantiers, en plein air, dans des conditions qui sont plus difficiles. Il y en a d'autres qui vont démarrer leur vie plus tard, et qui vont travailler dans des bureaux, et qui ont des espérances de vie qui ne sont pas les mêmes. Et nous devons en tenir compte. Parce que quand on part à la retraite et qu'on a 15 ans d'espérance de vie devant soi, et quand on part à la retraite parce qu'on a été cassé par son travail, et qu'on a 6 ou 7 ans d'espérance de vie devant soi, c'est pas la même chose. Et nous devons en tenir compte. Le troisième élément que je voudrais introduire, c'est une réflexion plus globale sur ce qui a été fait dans d'autres pays européens pour qu'on s'en inspire, qu'on tienne compte, par exemple, plutôt que de figer les choses comme on l'aime bien en France, de manière mécanique et de manière très rigide, on fasse preuve d'un peu de souplesse. Regardez ce qui a été choisi au Portugal, où l'évolution du régime de retraite dépend du niveau de croissance. Quand la croissance est forte, on accélère la réforme des retraites. Quand la croissance est plus faible, et donc que les revenus sont plus faibles pour les gens, on ralentit la mise en œuvre de cette réforme des retraites. Moi, je trouve que ça pourrait être des sujets d'inspiration.
Voilà pour moi. On va avoir 5% de croissance. Donc
voilà pour moi trois éléments de réflexion qui sont importants dans cette réforme des retraites qui, effectivement, me tient très à cœur et dont j'ai toujours dit qu'elle était une priorité absolue. 1. Augmenter le volume global de travail. 2. La justice. Et 3,
Bruno
de la souplesse.
Augmenter le volume de travail, ça veut dire clairement travailler plus longtemps. Pourquoi vous ne le dites pas de cette manière-là?
Parce qu'il y a plusieurs options, que ce n'est pas à moi de les définir, c'est tout.
Plus de volume de travail, qu'est-ce que ça peut être comme autre option, si ce n'est pas travailler plus longtemps?
Je vais vous donner un conseil. Ouais. Invitez le président de la République.
Mais vous le dites à demi-mot.
Lui seul pourra répondre
à
vos questions.
Vous le dites à demi-mot ce matin, Bruno Le Maire.
Invitez
vous
le
sous-entendez clairement.
Lui et lui seul pourra répondre à vos questions. Moi, je fixe ce qui est, selon moi, le cadre d'une réforme des retraites utile pour la nation française. Je le redis pour qu'il soit vraiment clair. Augmentation du volume global de travail qui garantit notre niveau de vie. Justice, parce qu'il n'y a pas de réforme sans justice. Et souplesse, parce que dans le fond, en France, on s'enferme trop souvent dans des systèmes rigides qui se heurtent à ce qu'est la vie. Et la vie, c'est l'imprévu. Donc il peut arriver qu'une réforme des retraites, elle est excellente sur le papier, puis tout d'un coup, il y a une crise économique, il faut aller moins vite. Eh bien, tenons compte de ces réalités-là. Je vous garantis que la réforme sera plus acceptable pour les Français.
Et vous espérez qu'elle soit plus acceptable et plus rapide peut-être que la repousser après
mais pourquoi,
la prochaine présidentielle.
Mais pourquoi est-ce que ce que d'autres nations européennes sont arrivées à faire...
Non, parce que certains dans la majorité disent qu'il ne faut surtout pas parler de ça avant la présidentielle.
Oui, mais l'ADN du président de la République et de la majorité à laquelle j'appartiens, c'est la transformation en profondeur du pays. C'est l'amélioration de la situation de chacun. On n'améliore pas la situation de nos compatriotes en restant les bras croisés, scotchés sur sa chaise, en attendant que le temps passe. Ce n'est pas ma conception de la politique. Vous voyez, si nous ne nous étions pas battus bec et ongles depuis 4 ans pour obtenir l'accord de Londres hier sur la fiscalité internationale, il ne se serait rien passé. Vous savez, il vaut mieux faire autre chose que de la politique si on veut rester les bras croisés à commenter l'actualité. Nous sommes là pour décider, avancer, changer.
Et agir. On marque une dernière pause et puis on se retrouve tout de suite avec Bruno Le Maire.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré,
Johan Usaï, Aurélie Herbemont.
Bruno Le Maire est toujours avec nous. Alors, premier tour des régionales dans 2 semaines. En PACA, la liste de Renaud Muselier est hybride, avec des LR bien sûr, et des marcheurs. Alors, hier soir, Christian Jacob, le patron des Républicains, était dans le Var pour soutenir son candidat, qui est aussi le vôtre, Bruno Le Maire. Voilà ce qu'il dit de l'exécutif.
Le pire déficit commercial de l'Union européenne, c'est avec M. Macron que nous l'avons atteint avant la crise Covid. Et puis, je peux vous parler de la sécurité aussi. depuis 3 ans. Les homicides, ils ont augmenté de 9%. Les violences sur force de l'ordre, plus 21%. Les coups et blessures volontaires, plus 20%. C'est ça la gestion de ce gouvernement.
Vous soutenez donc le même candidat au régional en PACA. C'est pas complètement ubuesque cette situation, Bruno Le Maire ?
Vous savez, tous ces propos sont outrés. Ce sont les propos du président d'un parti aux abois, qui verse dans la caricature. Et je pense que le débat politique mérite beaucoup mieux que ces caricatures.
Emmanuel Macron lui-même a reconnu que la violence enflait dans notre pays. Ce sont les mots du président de la République.
Oui, mais la violence, il est de la responsabilité des hommes et des femmes politiques de ce pays de l'apaiser. Et on l'apaise d'abord par ses propos, par la mesure de ses propos, par les mots que l'on emploie.
Pas par les actes ?
Mais d'abord, parce que c'est la responsabilité politique. Le métier politique, c'est d'abord de s'exprimer. C'est aussi de prendre des décisions, bien entendu, mais c'est d'abord de s'exprimer. Et je pense que la manière dont, dans le débat politique, beaucoup de responsables politiques, y compris parmi les Républicains, puisque j'écoute
votre ancienne famille
politique, Jacob, on verse dans l'outrance, dans la caricature, dans la violence verbale. C'est une erreur profonde. La violence verbale prépare toujours la violence physique.
Mais vous soutenez le même candidat en PACA. Il y a eu un gros engagement du gouvernement.
Je vous dis très simplement, je ne comprends pas le procès qu'on a fait à Renaud Muselier. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout d'un coup, les Républicains ont convoqué un tribunal pour juger M. Muselier du crime qu'il aurait commis, du crime de lèse-majesté, d'avoir conclu un accord avec les marcheurs, comme si nous étions une majorité repoussante, diabolique, et qu'il aurait fallu nous condamner en place publique. Enfin, la place que ça a pris est totalement disproportionnée, et moi me laisse tout simplement pantois. À l'inverse, quand le numéro 2 des Républicains
Guillaume
fait
Pelletier.
Des œillades à M. Ménard, qu'on vous explique qu'il n'y a
va,
pas
grande
parler, différence bon entre les Républicains et le Front National, sinon une différence de gouvernance, alors là, silence radio. Tout le monde trouve ça absolument formidable. C'est le signe d'un parti politique qui implose et qui, selon moi, a commencé à imploser en 2017 quand il a refusé, contrairement à ce qu'aurait fait Jacques Chirac, que j'ai servi pendant des années, contrairement à ce qu'aurait fait Nicolas Sarkozy, que j'ai servi pendant également des années, avec beaucoup d'honneur et beaucoup de fierté. Eux n'auraient jamais tergiversé et ils se seraient prononcés clairement et simplement pour Emmanuel Macron. Entre Emmanuel Macron et le Front National. Les Républicains ont refusé de le faire en 2017. Ils paieront pendant des années le choix qu'ils ont fait.
Le fait est qu'en PACA...
Si on reste sur PACA, pardon. On voit bien que depuis que le Premier ministre s'est mêlé de tout cela, Thierry Mariani est en tête maintenant, quel que soit le scénario, dans toutes les intentions de vote. Si on regarde sur les 4 dernières années, on voit que Marine Le Pen a progressé de 12 points dans les intentions de vote au second tour de l'élection présidentielle. Quand on regarde tout cela globalement, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas finalement, comme le disent ses adversaires, plutôt un carburant pour le Rassemblement national ?
Et le Rassemblement national n'a pas besoin d'autres carburants
plus
que
12 points en 4 ans.
Nos renoncements,
ça n'était jamais arrivé.
Les ambiguïtés des uns et des autres, ou les inquiétudes des Français.
Mais c'est vous qui êtes au pouvoir.
Est-ce que vous avez une responsabilité collective au sein du gouvernement ? C'est vous qui avez le pouvoir, comme le dit Aurélie Herbemont.
Mais il n'y a pas de responsabilité collective dans la montée du Front national.
Il y a des réalités. On n'a pas de responsabilité ?
Mais la responsabilité, elle remonte à bien plus loin. Enfin, pardon, mais
la
montée,
ans,
la montée puissante du Front National, elle ne date pas d'Emmanuel Macron. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles. Donc s'il y en a bien un qui a mis un coup d'arrêt à la progression de Marine Le Pen, c'est bien Emmanuel Macron, puisque lui, il a battu dans les urnes à plus de 60% Marine Le Pen.
Et ça sera encore le cas aujourd'hui, selon vous ?
Et que nous ne faisons preuve d'aucune ambiguïté dans le refus catégorique que nous avons vis-à-vis du Rassemblement national. Et je le dis comme ministre de l'Économie et des Finances, pas simplement pour des raisons morales ou politiques ou liées à l'histoire du parti, même s'il ne faut pas les oublier, mais tout simplement parce que ce que propose Mme Le Pen en matière d'économie et de finances ruinera la France dans des délais très rapides. Et que ces propositions ne tiennent absolument pas la route. Quand je la vois qui nous propose d'avoir une prime de 100 000 euros pour chaque enfant à la naissance qui devient un don au bout du troisième enfant, comme il y a 750 000 naissances par an, cela représente une dépense annuelle de 75 milliards d'euros, c'est absurde et c'est dangereux. Quand je vois qu'elle propose de revenir à la retraite à 60 ans, 40 milliards d'euros de coûts par an, c'est absurde et c'est dangereux. Le Front National doit être combattu pour son histoire, pour ce qu'il est, et pour ses propositions économiques et financières.
Qu'est-ce qui se passe, Bruno Le Maire, le 27 juin, si jamais une ou plusieurs régions du Rassemblement basculent dans l'escarcelle du Rassemblement national? Qu'est-ce qui se passe? Notamment, ils ont la compétence économique, la relance va passer notamment par les régions. Qu'est-ce qui se passe si le 27, il y a des régions Rassemblement national?
Mais je vous l'ai dit, je ne suis pas commentateur de la vie politique, je suis acteur. Et acteur, ça veut dire, pour m'être présenté à plusieurs élections, locales, régionales, nationales, que jusqu'au dernier jour de la campagne, il faut se battre pour que cela n'arrive pas. Notamment en PACA, où je soutiens évidemment Renaud Muselier, je souhaite qu'il l'emporte en PACA. Dans les autres régions également, il faut livrer campagne.
Justement, Bruno Le Maire, puisque vous êtes acteur, est-ce qu'il faudra que les listes En Marche, soyons clairs, se retirent partout où il y a un risque Rassemblement national, y compris par exemple dans les Hauts-de-France, où la liste En Marche n'est pas donnée favorite, donc on peut se dire, quatrième.
Autour de 10-11% dans les sondages.
Je ne veux pas rentrer dans des hypothèses de second tour tant que les résultats du premier tour ne sont pas tombés. Et vous ne m'y entraînerez pas. Parce que comme responsable politique, quel est mon rôle dans ces campagnes régionales? C'est d'abord de soutenir nos candidats pour qu'ils l'emportent. Et effectivement, PACA, soutenir Renaud Muselier. Mais je pense qu'il y a une responsabilité plus importante. C'est obtenir des résultats économiques pour les Français. Parce que la montée du Front National, pour moi, elle s'explique très largement par les difficultés qu'ont rencontrées les Français. C'est un symptôme, le Front National. Ça n'est certainement pas une solution. Je suis élu local. Je vois dans mon département de l'Eure et dans ma circonscription de l'Eure à quel point le Front National a progressé à des endroits où la situation économique devenait difficile, où des usines ont fermé, où la désindustrialisation a marqué les gens au fer rouge. Quand je me bats pour la relocalisation industrielle dans notre pays et quand nous réussissons avec le président de la République et le Premier ministre la relocalisation de certaines activités industrielles, la création d'une usine de batteries électriques à Douvrin dans le Nord, l'investissement sur l'hydrogène à Belfort. Et bien là, les Français se disent « Ah, la politique peut enfin changer quelque chose, donc eux, on va leur faire confiance. » Donc ma responsabilité dans cette campagne, c'est de dire clairement mon soutien à nos candidats, mais c'est aussi peut-être surtout d'obtenir des résultats économiques pour les Français.
Et est-ce que la priorité absolue pour vous, c'est de faire battre le Rassemblement national? Oui ou non? Priorité absolue?
Mais ma priorité absolue, c'est que notre pays se redresse. Vous savez, je pense
de faire battre le Rassemblement national, Bruno Le Maire, oui ou non, c'est une priorité absolue?
On rend service au Front National en le diabolisant.
Vous ne voulez pas répondre?
Le Front National, ça n'est pas grand-chose.
Ça n'est pas grand-chose?
Non, ça n'est pas grand-chose. Ça n'est pas un grand parti, ça n'est pas des grandes personnalités, ça n'est pas un grand projet pour le pays, et ça n'est aucune des solutions dont la nation française a besoin. Il gonfle à mesure des échecs que nous avons pu enregistrer depuis 20 ou 30 ans dans nos résultats politiques. C'est ça la réalité.
Et Marine Le Pen est aujourd'hui donnée à 47% au second tour de la présidentielle.
Le Front National, c'est le parti du rétrécissement et de la capitulation. Et qu'on veuille se rétrécir toujours plus parce qu'on a des difficultés, parce que ça va mal, ça peut se comprendre. Mais ne faisons pas du Front National ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un grand parti est un grand avenir pour le pays. C'est une petite chose, le Front National, que nous devons combattre avec beaucoup de fermeté et beaucoup de détermination par nos résultats, par notre action et par notre ambition pour le pays. Arrêtons de mettre le Front National au centre du débat politique, mettons au centre du débat politique ce que nous voulons pour les Français et ce que nous voulons pour la nation française.
C'est Emmanuel Macron qui fait aussi de Marine Le Pen sa principale adversaire. Il a peut-être l'impression que ça le sert, mais c'est une réalité.
Mais c'est vous qui en fait la principale adversaire.
C'est le président de la République.
Je n'entends pas le président de la République parler de Marine Le Pen ou du Front National matin, midi et soir. J'entends le président de la République. Pas du tout. Moi, je n'entends pas le président de la République parler du Front National. Vous parlez à sa place. Moi, je l'entends s'exprimer sur les retraites. Je l'entends s'exprimer sur l'économie. Je l'entends s'exprimer contre l'islam politique. Je l'entends s'exprimer sur son projet européen. Ne construisez pas à la place du président de la République ce qu'il ne construit pas. Et ramenez le Front National à ses justes proportions, un petit parti de la capitulation qui ne veut rien de bon pour la France.
Eh bien, je crois qu'on va devoir s'arrêter sur cette attaque en règle contre le Rassemblement National. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'avoir été avec nous. Merci Nicolas Barré, merci Yoann Uzaï. Bon dimanche à tous. Europe 1.